Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
Salut Jean-François.
Salut Philippe-Vincent.
Bon, commençons avec le hockey. Tu me parlais de la blessure de Brady Tkachuk.
De Mathieu Tkachuk, excuse-moi, je t'ai écrit Mathieu, Brady, hein? Non, c'est les deux frères. Matin, je devais avoir les yeux collés un peu quand je t'ai envoyé ça. Mais c'est pas grave parce que Brady, je vais en parler aussi.
Bon.
Dans le fond, Mathieu Tkachuk était avec les Panthers de la Floride, comme vous le savez, puis il n'a pas été capable de disputer le cinquième match. Puis là, c'était le bilan hier et il est revenu là-dessus. Et donc, on y est revenu sur sa blessure au sternum, donc une fracture sternum.
Ouais.
Depuis le troisième match, a réussi à jouer le quatrième match quand même, et là, le cinquième, c'était au-dessus de ses forces. Il a expliqué que son frère Brady est venu rester avec lui pour l'aider à s'habiller, l'aider à sortir du lit, à quel point c'était souffrant et tout et tout. Fait que, en lisant ça, j'étais comme un peu partagé avec la fameuse culture du hockey. Tu sais, dans un sens, il y a moi qui ai toujours grandi en écoutant des histoires sur Bob Gainey qui jouait avec les deux épaules disloquées.
Pas dedans.
Pas dedans, puis qu'il faut être un guerrier dans la Ligue nationale, puis blablabla, blablabla, tu sais. Puis je me suis dit, wow, il a joué quand même un match et demi avec le sternum fracturé. Puis de l'autre côté, quand tu arrives à la fin de l'article, il y a Paul Maurice qui parle de Mathieu Tkachuk, puis qui dit, c'est une blessure à prendre au sérieux. C'est une blessure qui va être longue à guérir. Fait que pour le prochain 6 semaines, il ne pourra pas s'entraîner, il ne pourra pas lever de poids, de charge, tout ça dans le haut du corps. Puis là, tu fais, OK, mais c'est à prendre au sérieux.
Mais pourquoi il a joué?
C'est en plein ça. Fait qu'on dirait que mon cœur de petit gars, en Ligue nationale, c'est des guerriers, puis ils jouent blessés. Et d'un côté, puis de l'autre côté, je fais, mais mon Dieu que c'est macho, la Ligue nationale de hockey. Puis après ça, tu sais, il y a des ticus là, qui vont jouer blessés, puis qui des entraîneurs qui vont demander à des joueurs ou à des jeunes, non, t'es capable, c'est un match important, c'est la finale, tout ça. Donc, c'est un double. Puis d'après moi, Paul Maurice s'en est pas rendu compte, le coach, en disant lui-même, c'est à prendre au sérieux, là, ce genre de blessure-là. Mais on l'a laissé jouer un match et demi. Puis j'ai aussi fait un lien avec les trainers du Canadien qui viennent de se faire congédier. Tu sais, puis c'est quelque chose qui est revenu, ça, sur comment ça se fait qu'on a autant de blessures, comment ça se fait qu'il y a des joueurs...
C'est parce que quand t'es fait jouer blessé, il y a des chances qu'ils se blessent encore plus gravement.
C'est en plein ça. Tu sais, les joueurs du Canadien, il y a eu plusieurs joueurs qui sont revenus cette année, qui sont repartis. Fait que, tu sais, il est où le contrôle du trainer? Je peux pas croire que l'équipe médicale des Panthers a fait « Ouais, il peut y aller, aucun danger. » Tu sais, il se fait frapper par des gars de 200 livres qui arrivent à pleine vitesse, puis il y a déjà le sternum fracturé. Sûrement qu'il y en a qui ont fait « Hey, moi, je jouerais pas, là. » Puis après ça, la décision, c'est à l'organisation puis aux joueurs. Fait que bref, c'est quand même quelque chose qui va être à changer éventuellement dans le merveilleux monde du hockey. On est blessé, c'est grave, c'est grave. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je te parle pas d'un doigt fracturé. Un doigt fracturé, si le gars veut jouer avec ça pour endurer la douleur, c'est une chose. Mais le sternum, on devrait pas jouer avec la santé des joueurs.
Comme les commotions cérébrales.
Ah ben, tu sais, moi, je continue de penser que Ratko Gudas, là, qui s'est fait sonner, qui a quitté le match, qui est jamais revenu, qui a pas été là les 2 jours d'entraînement, puis qui est revenu jouer celui suivant, je peux pas croire qu'il y avait pas des petites étoiles là, comme d'un petit comique qui tournait autour de sa tête. Mais là, on est en série de la Coupe Stanley en finale, fait que c'est plus grave. T'sais.
Parlons des Remparts qui ont pas tardé à nommer le successeur à Patrick Roy.
Oui, ils ont bien fait ça. Comme ça, il n'y a pas de spéculation. En dedans de 2 jours, on a trouvé le successeur. Dans les faits, il était déjà trouvé.
Il était déjà trouvé.
Donc, c'est Simon Gagné qui prend la place de DG des Remparts.
Ancien joueur des Flyers, lui, non?
Ancien joueur des Flyers, exactement, mais ancien joueur des Remparts aussi. Donc, lui, il a fait son junior avec les Remparts. Fait que c'est un retour à la maison. Il a dit d'ailleurs qu'il allait mettre toute son énergie de Remparts dans ce rôle-là. Il n'a pas pris le rôle d'entraîneur, donc va être seulement DG. Probablement, là, moi, ce que je m'étais laissé dire, c'est que lui, il a des jeunes enfants. Fait que sur l'horaire familial, c'est plus facile d'être directeur général qu'être entraîneur. Mais donc, il prend ça. Les Remparts vont être entre bonnes mains. Patrick Roy laisse ça entre bonnes mains. Et l'autre belle nouvelle, c'est Nicole Bouchard qui, Patrick Roy a souvent dit que c'était elle, la vraie directrice générale de l'équipe. Mais là, elle a le titre. Donc, probablement qu'elle va continuer de faire grosso modo ce qu'elle faisait, mais elle a le titre d'assistante DG. C'est la première fois dans l'histoire de la Ligue junior majeure du Québec qu'il y a une femme qui obtient ce titre-là. Parce que ça veut pas dire qu'il y en a pas qui le font, mais là, elle obtient le titre et le rôle. Et c'est une femme qui a roulé sa bosse dans le monde du hockey. Alors, je suis bien heureux que tout ça... Je la connais pas, là, cette madame-là.
On l'a reçue cette semaine, vraiment très sympathique. Et avec un fort bagage de hockey. Elle a commencé chez les Nordiques, travaillé un peu chez le Canadien. 40 ans dans le hockey.
C'est ça, je me disais 32 ou 42 que j'ai lu, là. Mais, non, puis là, ben, il y a plein d'articles sur elle, fait que je trouve ça bien, là, qu'elle, la lumière. Voilà.
Un mot sur le Canadien qui ne protégera pas, notamment, Anton Drouin.
Ouais, c'est la rumeur, mais honnêtement, il y a plusieurs. Là, je pense qu'on cherche à parler du Canadien parce que l'actualité est plus tranquille. Là, mais là, ça circule partout. Mais pour moi, c'est pas une surprise. Pour Jonathan Drouin, ça serait la pire chose de revenir ici à Montréal. Pour le Canadien, ça serait pas une bonne nouvelle non plus. Ce que je lui souhaite, c'est de trouver un contrat de hockey ailleurs. Dans la Ligue, je pense qu'il est encore capable de jouer dans une équipe, pas dans une équipe qui aspire au championnat, mais dans une équipe où sinon, tu sais, il y a toujours l'Europe. Peut-être que ça lui ferait du bien, mais j'espère qu'il va se retrouver un contrat de joueur de hockey. Gourianov, c'est quand même décevant dans le sens que on l'a vu, là, c'est celui qu'on a obtenu en échange de Radulov. Il est bourré de talent. Gourianov, là, c'est un joueur vedette qui pourrait contrôler l'avantage numérique, qui pourrait être un top 6 dans une équipe. Malheureusement, l'éthique de travail fait défaut. C'est sa réputation. Il n'a pas été capable ici non plus d'en donner. Puis je pense que les rôles top 6 à Montréal commencent à être définis. On sait que Suzuki va en avoir un, Caulfield, Kirby Dack, éventuellement Slavkowski. Fait que c'est pas le genre de joueur qu'on veut à Montréal. Puis c'est surtout pas le genre de joueur qu'on veut sur un troisième ou un quatrième trio. T'sais, sur un troisième trio, un gars qui se pogne derrière, ça...
Non, ben,
ça...
c'est ça.
Mais dans un monde idéal, ça passe pas nulle part. Mais encore plus quand on commence à avoir une bonne équipe.
Bon, un petit mot sur le US Open.
Hey, US Open, en fait, il y a eu deux records hier. Mais en fait, c'est le même record, mais fait par deux gars, Rick Fowler et Xander Schauffele, qui ont joué 62, Philippe Vincent. C'est hallucinant, là. Je pense que c'est normal 70 en fin de semaine. 60, mais c'est tellement de coups en bas de la normale, c'est jamais vu.
Est-ce que le terrain était particulièrement beau? Le vent était bon?
Non, c'est les golfeurs qui sont rendus trop bons. T'sais, wow. Là, plus ça va, là, c'est rendu à 7200 verges. T'sais, on agrandit les distances, on essaie d'acheter des terrains pour agrandir les trous, pour les compliquer, parce que c'est rendu que les gars des par 5, ils atteignent ça en deux, sont sur le vert. T'sais, sont trop des bons cogneurs. C'est des machines d'entraînement. La technologie, je veux dire... Moi, je joue au golf, là, puis j'ai pas leur swing, mais si t'achètes un bon bâton, le moindrement, là, des fois, tu
ça
vois des personnes d'un certain âge, là. Ah ouais, puis ils font juste un petit swing, ping, à part à 150 verges en avant. Fait que imagine qu'en plus, t'es capable de swinguer. Mais on va pas leur enlever, ils l'ont fait quand même. Donc, c'est un record du circuit à un pointage de 62 pour la première ronde.
Ah, Jean-François, on se reparle lundi.
Oui.
Salut. Mais toi, t'animes lundi, puis moi, c'est moi qui vais parler, en tout cas. Salut.
C'est bon, salut.